Avant de présenter ma recherche, j'aimerais un peu contextualiser ce que j'ai fait et ce que je vais vous présenter. Donc, actuellement, en termes de poste, je suis un chair de Transdisciplinary New Media à une école anglophone qui s'appelle Paris College of Art. En même temps, je suis doctorante et cofondatrice et partenaire d'un collectif qui crée des jeux vidéo, y compris des jeux sur iPhone et iPad, qui s'appelle Simple is Beautiful. Donc, je préviens aussi, ma recherche, y compris ma thèse, est rédigée en anglais. Les informations que je vous présente ont été publiées en anglais, et donc les graphes sont aussi écrits en anglais. Donc, j'imagine que dans cette audience, la plupart vont pouvoir faire ces traductions, mais ma présentation sera oralement en français. Donc, ma formation initiale dans les années 80 était en création industrielle. Et très vite, je me suis spécialisée dans la création assistée par ordinateur. Et dès l'apparition de l'Internet public dans les années 90, j'ai fait un virement vers les nouveaux médias. Comme formation, la création industrielle est très intéressante parce qu'elle nous apprend à travailler avec des systèmes et surtout d'être orientée vers les besoins des utilisateurs. Donc, mon virage s'est effectué via le web design, suivi de interaction design. Et après quelques années aux États-Unis, je suis venue en France. Je ne suis pas française. et j'ai commencé à travailler pour une boîte qui s'appelle Virtools, qui crée des outils pour la création de jeux vidéo, et ceci il y a 18 ans. Donc, ça fait quand même très longtemps que je suis dans le milieu de production de logiciels, et récemment, j'ai eu l'occasion de pouvoir démarrer une thèse. Et en cherchant les sujets, tout d'un coup, c'est comme si je m'étais réveillée, je me suis posé la question tout bêtement, mais pourquoi je suis quasiment seule dans les départements R&D de toutes les boîtes dans lesquelles j'ai jamais travaillé? Avec cette question bien naïve, tout le monde me regarde en général la première fois que je dis ça, mais les filles ne sont pas intéressées dans les jeux vidéo. Ok, bon, ce n'est pas exactement l'expérience que j'ai, ni parmi les femmes que je connais. Donc, j'ai vraiment commencé à structurer ma recherche autour des a priori qu'on avait autour des jeux vidéo. Donc, essentiellement, si on regarde les statistiques de ce qui se passe dans le monde de l'informatique en particulier, on voit que la participation des femmes est extrêmement faible et le plus technique le domaine, le moins de participation féminine. Donc, assez bizarrement, on voit qu'il y a pratiquement une parité dans les ressources humaines et opérationnelles. Ça va encore dans l'écriture, le marketing, mais dès qu'on arrive plutôt même dans la création visuelle dans les jeux vidéo et surtout dans la programmation, il y a une absence très très importante des femmes. Donc ceci, c'est de 2005. J'ai pu trouver très récemment d'autres chiffres et les chiffres descendent. Donc ils ne s'améliorent pas. Donc, en parallèle avec ça, je démarre ma thèse en réalité en regardant un mouvement qui s'appelle Girl Games, qui a été créé dans les années 90 aux États-Unis, où des femmes ont créé des entreprises pour créer des jeux vidéo pour filles, avec l'idée qu'à travers le jeu et le plaisir, on allait pouvoir encourager les filles à venir vers l'informatique et que rien qu'en participant dans le domaine ludique, ça allait créer un intérêt et que naturellement, l'intérêt se transformerait en désir d'apprentissage et donc ce serait une voie pour amener les filles vers ce filière. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Sur les 20 dernières années, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y a un équilibre en consommation des médias. Il y a autant de femmes comme qui achètent des jeux. Les femmes passent légèrement plus de temps sur Internet que les hommes. Les femmes ont tendance à privilégier les tablettes tactiles et les ordinateurs que les consoles pour jouer, mais qu'essentiellement, grâce à ces efforts, les femmes sont présentes et consomment autant que les hommes les produits des nouveaux médias. Par contre, qu'est-ce qui s'est passé dans le domaine informatique? Donc, on voit les statistiques de femmes qui ont leur bachelor's degrees, donc c'est le bac plus 4 aux États-Unis, et on voit une augmentation dans tous les domaines, y compris physique et l'ingénierie, mais une baisse notoire en sciences de l'informatique. Alors, il y a beaucoup de recherches qui s'effectuent en réalité sur ce phénomène. Je ne suis vraiment pas la première sur le terrain. Et donc, si on commence à regarder vraiment dès le début, on voit qu'il y a plusieurs théories en place qui essayent d'expliquer cette absence de femmes. Et on peut les diviser plus ou moins en deux catégories. Une qui est plus une recherche sur les différences qui vont expliquer pourquoi les femmes ne sont pas là, donc des recherches sur les facultés cognitives, le problème de 3D mental rotation. Et en général, c'est un peu utilisé pour expliquer le status quo. Ces théories dites « les hommes et les femmes sont différentes » et à cause de ça, les femmes ne sont pas intéressées et n'ont pas le cerveau pour. J'extrapole un peu, mais c'est un peu ce que cette politique veut dire. Donc, évidemment, si on regarde les féministes, ce n'est pas exactement une situation qui est acceptable. Et donc, ce sont plutôt des théories sociales. Donc, dès la naissance, on commence à dresser nos enfants sur une dichotomie mâle-femelle extrêmement stricte. On leur apprend comment s'habiller, quel genre d'activités sont appropriées, on leur donne des jouets différents, on interagit avec eux de manière très différente. Par exemple, pour les filles, on les regarde, on leur sourit plus, on répond plus à leurs besoins, donc on les apprend à être demandeurs d'aide. Les garçons, justement, on a tendance à les ignorer, on les manipule physiquement beaucoup plus, on leur donne plus de surface à explorer. Et donc, dès la naissance, ce système se met en place. Et après, quand on arrive au moment de ces tests biologiques, bizarrement, les femmes ont des cerveaux où le langage est mieux développé parce qu'on a passé plus de temps à développer ces capacités chez elles. Donc, quand on regarde toutes ces théories biologiques et même les tests de différence, en général, les différences sont relativement minimes et ne peuvent vraiment pas expliquer l'absence de femmes à travers ces théories-là. Donc, très bien, regardons un peu ce qui se passe côté facteur social. Donc, parmi les choses que j'ai un peu remarquées, c'est les stéréotypes de genre qui s'ancrent très vite et donc cette croyance que les femmes ne jouent pas, ne sont pas intéressés en la technologie et ne sont pas doués pour ça. Donc ça, c'est un des problèmes. Donc, Women in Math, Women in Technology. Et une autre qui est aussi assez nocif, celle-ci est plutôt un stéréotype masculin, le stéréotype du geek et du gamer. Très tristement, Gamergate est vraiment en train d'essayer de le renforcer de la pire manière possible. Mais essentiellement, ces trois différents stéréotypes posent vraiment des problèmes parce qu'on ne les doute pas. On pense que c'est une vérité. Je vois très peu de femmes qui jouent, je vois très peu de femmes qui sont devant leur console, je vois peu de femmes qui sont dans les métiers plus techniques. Et donc, on crée ces idées et on ne les questionne pas. On les prend pour des normes plutôt que des stéréotypes. Donc, si on combine ça avec le deuxième élément assez critique, qui est le low self-esteem issues, ou le manque d'estime en soi, le manque d'amour propre, il y a plusieurs syndromes là aussi qui montrent que les filles ont tendance à douter d'elles-mêmes beaucoup plus vite, que si elles ont du succès, c'est par accident. Et le pire, c'est que ces recherches montrent que les parents renforcent cette croyance aussi. Donc, un garçon qui aura un problème sur un examen de maths va penser qu'il n'a pas eu de la chance, peut-être qu'il n'a pas bossé assez, ce n'est pas très grave. La fille, elle va se dire « c'est parce que je suis mauvaise hein, ». Dans exactement les mêmes conditions. Et le pire, c'est que les parents les croient aussi. Et donc, comment est-ce que ça se traduit au niveau universitaire? Ben, on voit que les filles, par exemple, vont commencer à abandonner leurs études avec des notes bien supérieures aux mâles. Donc, aux États-Unis, ça se traduit par un abandon des études avec un niveau B-, qui serait 15-16. Tandis que les garçons ne se posent même pas de questions avec une moyenne de 12. Voilà. Donc, et pourquoi? Parce qu'on renforce, bien sûr, chez les garçons, que le domaine technique est un domaine naturel pour eux, qui n'auront aucun problème parce que c'est fait pour eux. Alors, quand on commence à faire ce genre de recherche, très vite, on se pose la question, mais comment est-ce que les femmes se retrouvent dans cette galère? Et pourquoi est-ce qu'elles y restent encore plus miraculeusement? Et je dis ça parce que j'ai quand même passé 20 ans dans ce milieu sans jamais me poser la question. Hein. Mais bon, donc... Si on regarde un peu toutes, si on regarde un peu toutes les recherches qui ont été faites dans ce milieu, et, si on regarde ce qui se passe des femmes qui étudient et qui bossent, on focalise vraiment sur les problèmes. L'hostilité des hommes, la manière dont ça se manifeste en relation avec les professeurs, avec les boss, avec le management, l'antagonisme des collègues. Franchement, je n'ai jamais personnellement eu ce type de problème. Alors, je me suis posé la question, mais je connais plein de femmes quand même qui travaillent dans ce milieu. Il y a des groupes de discussion, des gens qui sont dedans depuis 20 ans, qui sont passionnés, qui sont super doués. Comment est-ce que ces personnes ont développé cette résistance, cette resilience, ou résilience ? Je sais pas si... Justement, à ces facteurs-là, comment est-ce qu'on a pu surmonter ça et franchement, même pas se poser la question. Donc, au lieu de focaliser sur les problèmes, j'ai décidé de démarrer ma recherche par les femmes qui travaillent dans les milieux informatiques et j'ai profité de tous mes réseaux particulièrement axés développement de jeux vidéo pour faire cette recherche de manière assez internationale. Donc, j'ai décidé de demander à toutes mes collègues et amis et personnes de mes réseaux de prendre le Myers-Briggs Type Indicator. Alors, je sais que là, je rentre en terrain miné. C'est vrai que c'est basé sur les théories psychanalytiques de Carl Jung, qui est c'est un peu le drapeau rouge pour les académiques. Donc, je comprends tous les problèmes liés à cet outil. Je ne suis pas particulièrement convaincue par la dichotomie exclusive ici, mais c'est quand même un outil intéressant pour quelques raisons. Il a été créé dans les années 40 spécifiquement pour aider les femmes qui allaient rentrer dans les emplois, souvent masculins, de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ça a vraiment été créé dans le but de l'orientation. Et ça focalise sur deux tout petits facteurs, comment on aime prendre notre information et comment on aime prendre nos décisions. Sur quoi est-ce qu'on focalise et comment est-ce qu'on utilise cette information pour en tirer des conclusions. Et donc, si on considère que le test ne focalise que là-dessus et que ce n'est pas un test, est-ce qu'on est bon, est-ce qu'on va bien s'entendre avec notre mari et compagnie, c'est quand même assez utile. Aussi, c'est un test qui est activement utilisé pour l'orientation professionnelle et éducative. Donc, il est administré environ 2 millions de fois par an. Et c'est vraiment un outil qui est utilisé pour ça. Donc, je fais une très longue explication de pourquoi j'ai utilisé cet outil. Voilà. Donc, les quatre binômes, c'est l'extraversion, introversion, ça c'est de Jung. La plupart des gens connaissent un peu cette terminologie-là, c'est vraiment où on aime focaliser notre attention. Est-ce qu'on est plutôt quelqu'un qui préfère réfléchir aux idées internes, être un peu plus solitaire, ou est-ce que justement c'est à travers l'interaction avec le monde externe qu'on aime puiser notre information? Donc quand j'ai commencé, je me disais déjà, bon, je connais mes collègues quand même, je les vois qu'elles sont très rationnelles, sont assez carrées. Bon, ayant eu probablement le même genre de début difficile dans les années collège et lycée, avec des intérêts plutôt techniques, ça ne me surprenait pas que ce serait une typologie plutôt rare chez les femmes et que encore plus spécifique, ce serait quelqu'un de ce qu'on appelle rationnel, donc quelqu'un qui aime la logique, qui aime structurer les choses et qui arrive à travailler dans un milieu qui est quand même assez abstrait. Donc, je pensais que les femmes seraient plutôt introverties, qui n'est pas exactement très surprenant. Là, sensing intuition, c'est la manière dont on va capter l'information, la garder en nous. Donc, les sensing types, c'est les gens qui, quand ils retiennent l'information, ils le retiennent en forme de fait. Donc, ils prennent les informations et puis ils vont les structurer à travers des règles. Les intuitifs, par contre, ils focalisent beaucoup plus sur les impressions des faits. Donc, pour faire ça, il faut quand même avoir une méthode qui ignore un peu les structures qui vont les organiser pour soi. Et je reviendrai là-dessus parce que c'est assez critique. Thinking feeling, ça, c'est, la terminologie n'est pas géniale pour ça, mais c'est la manière dont on va utiliser l'intuition et le sensing pour prendre nos décisions. Donc, les thinking types sont plutôt des gens qui focalisent sur des déductions logiques, qui séparent vraiment la valeur sociale sur un système plus global, tandis que les feeling types vont focaliser justement sur le contexte et sur l'élément humain dans ce contexte. Donc, c'est vrai que là, moi, je pensais qu'il y aurait plus de thinking types que feeling types, et c'était une erreur. Et dernièrement, judging perceiving, c'est où, dans notre moment d'extraversion, on aime interagir avec le monde extérieur. Alors, les judging types sont plus confortables à travailler avec l'extérieur au moment d'appliquer les décisions. Les perceiving types, eux, préfèrent justement être ouverts vers l'extérieur pour capter l'information. Ça se manifeste aussi, par exemple, quelqu'un qui est perceiving, quand on crée un système, la personne va essayer de créer un système qui est le plus facile à changer, parce qu'on n'est pas, on n'est pas très confortable à prendre des décisions et rester avec, on préfère créer des choses plus flexibles. Et donc la flexibilité et la possibilité de modification est quelque chose, par exemple, que les perceiving types aiment introduire dans leur application. Alors, voici, donc, comme je disais, j'ai travaillé avec plusieurs réseaux. À la fin, en 3 semaines, j'ai eu 94 participantes. Leur carrière professionnelle était, donc c'était un minimum de 5 ans dans le milieu, donc des gens qui ont quand même travaillé assez longtemps. Et donc certaines qui étaient assez seniors, et je les ai groupées en 4 types de profils basés sur le niveau de technicité de leur parcours. Parce que ce qui se passe, c'est que les femmes qui démarrent dans les boîtes au niveau programmation, souvent, quand leur carrière avance, elles se retrouvent dans le management plutôt pour gérer la boîte que rester purement technique. Donc, après, quand même une analyse assez individualiste de chaque femme, j'ai pu calculer les préférences. Donc, les préférences ont été faites par un formulaire en ligne qui leur donne un score. Et ces femmes, donc, c'est des femmes autodéclarées, parce qu'il y en a certaines que je n'ai jamais rencontrées, qui m'envoient leur score basé sur une valeur associé à une des lettres. Donc, par exemple, un introvert extraverti, si on regarde les scores, le score maximal, c'est 100 pour chaque valeur. Mais si c'est un binôme, s'il y en a un qui est 100 positif, l'autre est 100 négatif. Et aussi, si on considère qu'on parle d'une distribution de population à moitié normale, donc une courbe gaussienne, la plupart des gens auront des préférences très faibles pour l'un ou l'autre. Okay. Donc, ce qui est important, c'est que ce n'est pas qu'on fait que un ou que l'autre, c'est qu'on a une préférence pour un mode au-dessus d'une autre. Donc, comme j'ai pu identifier, il y a une forte préférence pour l'introversion, Et on voit par les différents programmes art, design et management que les gens qui sont dans le management auront, par exemple, une tendance à être plus extravertis que les programmeurs. Ce n'est pas une énorme découverte, là. Ce qui m'a extrêmement surpris, c'est les résultats avec sensing et intuition, parce que je ne m'attendais pas vraiment à trouver l'énorme axe là-dessus. Donc, si on regarde ce qui se passe parmi les groupes de femmes, on a 82 des 94 qui ont des préférences intuitives à 50. C'est extrêmement fort comme préférence. C'est pas « je suis légèrement intuitive », non, je suis franchement intuitive. Tandis que les sensing, à part une seule femme qui avait un score au-dessus de 50, tout le reste était des scores extrêmement faibles. Alors, bon, en termes de méthodologie, peut-être, je ne pense pas que la méthode dont j'ai trouvé mes échantillons peuvent expliquer cette différence. C'est plutôt que je devrais aller étudier la seule sensing femme qui a vraiment cette préférence bien marquée pour comprendre plus ou moins pourquoi elle est si différente. Mais bon, donc essentiellement, je montrerai cette information visuellement pour que ce soit un peu plus clair où se trouve l'absence. Donc, moi, je m'attendais à avoir une différence thinking-feeling. Justement, les feeling types sont dominants sur les thinking types. Le seul groupe qui a une légère et une toute petite préférence pour thinking, c'est les programmeurs. Donc, vraiment où la logique abstraite a vraiment besoin d'être bien ancrée et quelque chose de agréable. Et finalement, il y a une franche préférence pour judging, au-dessus de perceiving, mais de nouveau, ce n'est pas des valeurs qui sont extrêmement fortes, surtout si on fait la moyenne entre les deux groupes. Donc, après, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'avais ma base de données, j'ai pu identifier les femmes dans leurs différentes typologies, donc ça, c'est les 16 différentes combinaisons de ces préférences, et la prochaine étape était bien sûr de les comparer à d'autres bases. Donc, si on regarde Women in Games, donc la première colonne, ça c'est le résultat de ma base de données en pourcentage. IGAD, c'est une base de données d'une de mes collègues qui a fait de la recherche sur ses étudiants en game design, ce sont des étudiants néerlandais. Je montrerai cette base en plus de détails un peu plus tard. Mais c'est la base la plus proche de ce que j'ai pu avoir comme comparaison, parce que c'est des gens qui ont le désir de rentrer dans le même métier où ces femmes se trouvent déjà. Donc, ceci, c'est des professionnels, ceci, c'est des étudiants. Elle avait accès à plus d'étudiants, donc elle a 135 personnes qui ont participé. Elle n'a pas pris le même genre d'informations que moi. Moi, je prenais vraiment l'intensité de la préférence en compte. Et pour rendre les choses encore plus troubles, il y a 13 femmes qui se trouvent dans ces 135 étudiants, mais qui n'ont pas été identifiées. Donc, c'est un peu le ratio de femmes dans le domaine. Donc, je me suis dit, bon, on va utiliser cette base-là plus comme une base généraliste. Il y a quelques femmes, mais elles sont encore très minoritaires. Et donc, c'est le mieux qu'on a pu faire sous cette condition. La base BSM, c'est une base basée sur 5000 échantillons du même formulaire que j'ai utilisé. C'est une base de population générale. Et les deux derniers, High School Female et Female College Graduates, ça vient du manuel du MBTI, basé sur les pourcentages des femmes lycéennes, donc sur les 3 années du lycée, et les femmes qui ont fini 4 années d'études. Okay. Donc, pourquoi est-ce que ceci est intéressant? Parce que, si on regarde rien que les 94 femmes, deux types représentent presque la moitié de mon échantillon. Ok, on voit clairement, l'INFJ et l'INTJ sont extrêmement majoritaires. Ça, je ne m'attendais vraiment pas à trouver ce genre de résultats. Mais encore plus effrayant, quand je disais que je m'attendais à ce qu'elles soient minoritaires vis-à-vis de la population générale, pour les lycéennes, ce que mon groupe qui représente 50% représente 3,7% des lycéennes. Alors, ce n'est pas une très bonne nouvelle. Par contre, ça devient plutôt 13% une fois qu'on voit les femmes qui arrivent quand même à finir à un niveau Bac plus 4. Alors, on ne voit pas trop. Enfin, là, j'identifie un peu les blocs majoritaires pour les étudiants en game design hollandais et mes données qui sont vraiment confinées à la partie intuitive. Donc, plusieurs choses. Donc, déjà, il y en a quand même 135 ici comparé à 94 à côté. J'identifie leurs catégories. Moi, j'utilisais une catégorie différente que ce que ma collègue a utilisé. Première chose qu'on remarque, c'est que la distribution dans la population des étudiants en game design est beaucoup plus hétérogène que chez les femmes. On voit qu'il y a une concentration assez forte ici et une partie quasi vide, tandis que même dans les parties minoritaires, il y a toujours une représentation un peu plus importante. Alors, si on regarde les axes majoritaires, donc pour les femmes, comme j'ai dit, que je ne m'attendais vraiment pas à ça, c'est vraiment sur l'intuition. Tandis que les hommes, c'est plutôt sur judging qu'ils se trouvent majoritaires. Mais encore, c'est moins évident de trouver un groupe fiable et facile à isoler. Alors, je me suis penchée un peu, justement, pourquoi est-ce que l'intuition est si importante chez ces femmes ? Ouais ? Non. Attendez, je vais rester ici pour un peu plus. Donc, l'intuition, comme je disais, c'est quelque chose qui permet de surmonter les contraintes des règles. Donc, parmi la population, les gens qui ont une tendance ou une préférence pour l'intuition ne représentent en réalité que 30% de la population. Donc, ils sont minoritaires, ce n'est pas un partage égal. Et c'est le type de préférence qu'on trouve fréquemment chez les scientifiques et les artistes. Alors, pourquoi ? Donc, comme je disais, les sensing types aiment focaliser sur les faits et essayent de les structurer. Mais au moment de les structurer, ils vont justement se référer à des règles, à des normes, et donc, si on ne les questionne pas, à des stéréotypes. Donc, quelqu'un qui est sensing est quelqu'un qui va croire, parce qu'ils n'ont pas vu beaucoup de femmes dans le milieu, que sa femme n'aime pas jouer, qu'en réalité, ces stéréotypes sont des normes et pas des stéréotypes. Donc, la résilience des femmes qui se trouvent dans le milieu, en réalité, c'est parce qu'elles ont un scepticisme vis-à-vis des règles, qui est quand même assez important quand on est scientifique ou artiste. Il faut pouvoir aller au-delà des systèmes pour faire avancer les choses. Il faut prendre des risques, il faut avoir vraiment un désir de surmonter ses limites. Et donc, ce scepticisme vis-à-vis des règles devient aussi un scepticisme vis-à-vis des normes, potentiellement, et donc vis-à-vis des stéréotypes. Donc peut-être qu'il y a des trucs qui nous ont dit « Oh non, l'informatique, ce n'est pas pour toi, t'es une fille, tu vas être misérable là-dedans. » Mais en réalité, on s'est dit « Non, moi, je suis passionnée par ça. Pas de problème, j'ignore les règles qui me conviennent pas et je surmonte grâce à cette capacité. » Donc, enfin bon, le côté un peu nunuche du MBTI, c'est qu'à la fin, ils essayent de présenter absolument toutes les catégories comme des catégories fabuleuses. Mais en réalité, pour les gens créatifs, vaut mieux être intuitif que sensing. Je dis ça, je ne sais pas si vous avez vos scores et que vous êtes sensing, vous êtes mortifié. Mais l'absence vraiment notoire ici de femmes, c'est parce qu'elles ont vraiment cru que c'est un milieu qui n'est pas fait pour eux et que c'est un milieu masculin. Et quand on est sensing, on ne va même pas réfléchir un instant d'aller se mettre dans un milieu qui n'est pas le nôtre. Si on est quelqu'un de technique, on ira plutôt vers la médecine, vers les maths, les endroits qui vont être moins intimidants. Ceux-là ignorent les règles, d'une certaine manière. Ce serait intéressant de voir combien de personnes ont des speeding tickets, où est-ce qu'on transgresse ces règles et dans quel moment. Mais cette différence est vraiment très importante. Alors la question ici, comment ça se fait qu'il y a autant de sensing males? Ben, ces sensing males, c'est terrible à dire, mais ce n'est pas nécessairement les gens qui vont être les plus créatifs dans la création d'un logiciel, mais c'est des gens qui vont être vachement utiles pour la production. Donc, parce qu'il y a quand même beaucoup d'étapes dans la création d'un logiciel qui nécessitent quand même un savoir-faire pour bien appliquer des méthodes de production. Donc, on a quand même besoin de gens sensing types dans cette procédure, et que c'est juste une occasion manquée pour les femmes. Mais ces gens-là, normalement, ne sont pas plus particulièrement doués que l'autre groupe. Et c'est ça qui est très important. C'est vraiment basé sur sa croyance vis-à-vis de nos capacités. Donc les garçons, on leur dit, vas-y, fonce, l'informatique, c'est l'avenir, tu trouveras toujours du travail, ça va être génial. Tandis qu'aux filles, on émet des doutes, et essentiellement, ça sert de frein, et c'est un frein qui démarre très très tôt. Donc la métaphore utilisée pour la perte d'intérêt des femmes est appelé le syndrome du tuyau percé, leaky pipe syndrome. Et si on commence vraiment à réfléchir de ce qui se passe à ce moment-là, en réalité, le basculement et la première grosse fuite, ça arrive au moment où les filles rentrent au collège. Essentiellement, ça va être le premier moment où elles vont être confrontées à des maths plus difficiles et qu'elles vont commencer à subir une pression pour ne pas être trop bonne, parce que alors les garçons ne vont plus l'aimer. Les parents qui commencent à aimer des doutes, oh, je sais que c'est dur les maths pour toi, mon chou. Donc, tandis que les garçons vont être encouragés de manière complètement arbitraire, techniquement. Parce que même quand on regarde les performances, il n'y a pas de différence, moins aux États-Unis. Donc, j'ai commencé à regarder un peu les différents groupes. Donc, parmi les femmes, donc, qui représentaient 86% de mon échantillon, il y avait tous les différents types de points forts de leur méthode de perception et de prise de décision. Ce n'est pas très, très critique. Pour ceci, mais vu que j'ai un peu de temps, je vais parler de ma deuxième recherche. Donc, à partir de ce point-là, j'ai décidé de me remettre sur les jeux vidéo et donc regarder ce qui se passait vis-à-vis des enfants. Okay? Parce que si on considère que les jeux vidéo, c'est un super moyen d'être introduit à la technologie, de développer une passion pour ça, ce qui est assez intéressant, c'est de regarder un peu ce qui se passe chez les enfants qui apprennent à utiliser ça dès le début. Par contre, je ne vais pas présenter cette information-là ici. Je vais parler de deux choses que j'ai menées en parallèle. Donc, ma thèse vire maintenant vers les enfants. Je ne vais pas vous présenter ça parce que je suis encore en train de la rédiger. Mais j'ai continué à travailler sur les femmes. Parce qu'en réalité, l'autre chose que je me posais la question, c'est que ben, peut-être c'est des femmes qui ont une résistance naturelle aux stéréotypes de genre. Et donc, est-ce que c'est des femmes qui sont masculines? Est-ce que c'est des femmes qui sont transgenres mentalement? Alors, pour faire ça, c'était une procédure assez difficile. Je ne cache pas, ça a été... Mentalement transgenre. Je l'expliquerai dans la partie discussion ce que je veux dire par là. Donc, mentalement transgenre, c'est que on se positionne vis-à-vis de ces stéréotypes. Donc, il y a les stéréotypes qui existent, mais ces stéréotypes ne sont pas définis par nous. C'est défini par la société. Alors, qu'on l'aime ou pas, avoir un caractère fort, qui prend des décisions, qui sait se défendre, qui sait mener un groupe, c'est considéré dans la société comme un aspect masculin. Aimer les enfants, avoir un peu de difficultés à prendre, à choisir ce qu'ils veulent, hein, ça c'est considéré féminin. C'est horrible, mais c'est la société qui le définit comme tel. Donc, en sachant que ces stéréotypes sont franchement assez abominables, je n'ai pas pu échapper le seul vrai test qui a été prouvé scientifiquement, qui est le BSRI, le BEM Sexual Inventory. Alors, la première fois que je l'ai pris, j'étais tellement vexée par les résultats que j'ai reçus que j'ai dit « Ah non, c'est pas possible que j'utilise ça comme outil ». J'ai attendu un an avant de redémarrer cette recherche et j'ai dit « Non, il faut absolument que je sache qu'est-ce qui se passe chez ces femmes qui ont une telle résilience ». Parce qu'en réalité, la plupart de ces femmes, c'est des amies avec qui je discute par email depuis 15 ans maintenant, mais je ne les ai jamais rencontrées. Bon, je les connais un peu, parfois j'en rencontre une à une conférence, mais vraiment, on se connaît intellectuellement, je n'ai aucune idée de comment elles sont au travail. Donc, juste pour en avoir le cœur net, j'ai décidé de relancer ce test. Donc, j'ai demandé de nouveau à tout mon réseau. Je me disais, ah ouais, ok, moi, elle voit. Donc, j'explique le danger de ce test, que c'est vraiment des stéréotypes gros et horribles. Mais je ne leur dis pas quand même. Moi, ce que je veux savoir, c'est combien sont androgynes et combien sont masculines. Voilà, voilà. Je ne pose pas ça comme élément. Donc, comme j'ai dit, donc essentiellement, il y a un vrai problème là-dedans. Quand j'envoie ma demande pour la participation, j'ai de nouveau un outil qui va pouvoir extrapoler des données précises et je demande qu'on me l'envoie. Alors, en utilisant exactement la même méthodologie que j'ai utilisée pour mon sample dans le MBTI, je n'ai pu avoir au bout de un mois, là j'ai même fait un peu plus longtemps, 14 femmes qui ont bien voulu partager leur score avec moi. Alors, techniquement, on ne peut pas dire que j'ai des chiffres fiables, ce n'est pas une bonne base de données, mais son échec est presque plus intéressant que les données que j'ai pu récolter. Donc, parmi les 14 femmes qui ont bien voulu partager leur score avec moi, il y en avait deux, ce qu'on appelle des sex type féminins, 11 androgynes et un cross sex type masculin. Donc, je vais expliquer rapidement ce que ça veut dire. Donc, dans les théories de BEM, la féminité et la masculinité ne sont pas une dichotomie. Ce n'est pas soit c'est femelle, soit c'est féminin, soit c'est masculin. Et de nouveau, je n'ai pas vraiment défini le genre, mais le genre est sociologique, le sexe est biologique. C'est comme ça qu'on définit. Donc, quelque chose mâle, femelle, on parle vraiment de sexe. Quelque chose de masculin ou féminin, on parle de genre. Donc, si on considère que soit on peut être très féminin ou très peu féminin ou très féminin, et la même chose sur l'axe masculin, on peut être très, très peu masculin ou très masculin. Si on les croise, essentiellement, ça crée quatre régions. Si on est très bas dans nos aspects féminins et masculins, on est undefined. J'espère que je pense que je n'ai encore jamais vu quelqu'un undefined, parce que ce serait vraiment problématique. On n'a aucune motivation, on n'aime rien faire. Enfin, franchement, ce serait effrayant. C'est vraiment problématique ce cadré-là. Donc, soit on a intériorisé les valeurs féminines, et si on est une femme, on est sex-type. Si on est un homme avec des valeurs féminines, on est cross-sex-type. Même chose avec le masculin. Donc, moi, j'ai testé que des femmes ou des femmes qui se sont autodéclarées. Donc, les femmes qui se retrouvent avec un score masculin très élevé, mais un score féminin bas, se retrouverait dans ce cadran-là et donc serait cross-sex-type masculin parce que c'est une femme. Et si on a des valeurs hautes masculin et féminin, on se retrouve dans le golden quarter où essentiellement, d'après BEM, vaut mieux se trouver androgyne parce que ça nous donne la capacité d'être beaucoup plus flexible dans beaucoup plus de différents types de situations. Donc, on peut aimer les enfants, on peut faire toutes ces choses en même temps. Donc, moi, je m'attendais quand même à avoir beaucoup de gens ici, mais ma question est, où est-ce qu'elles se trouvent, ces femmes, basées sur cet axe? Alors, ce qui n'aide pas particulièrement, c'est qu'ils ont changé la manière d'établir les scores. Avant, pour être androgyne, il fallait avoir un équilibre entre un score masculin et féminin au-dessus de 50. C'est assez difficile d'avoir ce genre de résultat. Donc, maintenant, il faut juste avoir les scores au-dessus de 50 dans les deux catégories. Donc, avec ce changement de score, ce qui se passe, c'est que 11 de mes femmes androgynes avant auraient été considérées plutôt sex-type masculin ou cross-sex-type masculin parce que leur score masculin est beaucoup plus élevé que leur score féminin. Et comme filtre, j'ai utilisé une différence de 15 points entre le score masculin et féminin. Donc, si on regarde en réalité la manière dont... Je n'ai pas encore fait le graphique qui va avec ça, mais essentiellement, la plupart des femmes se trouveraient sur cet axe très proche du masculin et quelques-unes se trouvaient là. La dernière chose très intéressante, c'est que de loin... mais vraiment de loin, le score, bon, parmi les deux sex type féminines, le score le plus haut féminin était une programmeuse transgenre, transsexuelle, je m'excuse, parce qu'elle a vraiment fait la... et vraiment, c'était 80 féminins, 30 masculins. c'est au point où c'était vachement bizarre, oui. Male to female, oui. Donc, c'est un homme qui est devenu une femme, donc post-opératoire, donc vraiment une transformation complète. Et de loin, cette personne, qui est un programmeur, qui travaille dans l'industrie depuis vraiment très, très longtemps, très, très, très connu d'ailleurs, avait le score féminin de loin le plus élevé de tout mon échantillon. Donc, de nouveau, je ne vais pas écrire un papier là-dessus, ce sera partie de ma thèse, parce que je trouve que l'échec est presque plus intéressant Non, ce n'est pas plus intéressant. J'aurais bien aimé que ce soit un peu plus facile. Mais la raison qu'il y a eu cet échec, c'est vraiment le problème du stéréotype de la femme scientifique. Parce qu'essentiellement, je ne sais pas combien de femmes ont pris le test, et comme moi, la première fois que je l'ai pris, mais j'étais super vexée. C'était horrible de recevoir ce genre de score hyper masculin. Donc, automatiquement, on se pose même pas la question. Mais en réalité, le problème, c'est qu'on se retrouve en train de marcher la ligne entre le stéréotype de la femme scientifique. Soit on est trop féminine et on n'est pas pris au sérieux, on n'est pas un bon scientifique. Soit on est trop masculin et auquel point on n'est pas une bonne femme. Donc... comment est-ce qu'on navigue en ce terrain absolument miné? Et donc, la plupart des gens, une fois qu'ils reçoivent ce score, parce que c'est vraiment masculin X, féminin X, androgyne X, c'est vraiment... Je pense que l'outil, ça aurait été plus facile si j'avais les femmes sur place, que j'aurais pu vraiment leur faire remplir un questionnaire, que c'était moi qui allais extraire les données, parce que je pense que j'ai eu beaucoup d'abandons dans ce projet, vraiment au moment où ils avaient le score et qu'ils avaient trop honte de le partager. Et que, justement, cette performance de genre chez les femmes qui travaillent dans ces milieux, c'est un sujet qui est quand même extrêmement sensible. Donc, je comprends pourquoi ça a échoué. Les valeurs donc, sont intéressantes parce que c'est vrai que basé sur ces normes, on trouve des femmes qui ont plutôt des caractères, qui savent mener, qui savent se défendre, qui peuvent imposer leur point de vue, qui sont dans la société considérées comme des éléments masculins, mais moi je ne considère pas ça comme masculin, donc ça ne me pose pas personnellement un problème. Mais il faut vraiment pouvoir passer du temps à analyser cet outil pour ne pas sortir de cette procédure un peu vexée. Donc, qu'est-ce que toute cette recherche nous dit? En réalité, si vraiment on veut qu'il y ait plus de femmes qui viennent dans les milieux informatiques, techniques, scientifiques, ingénierie et compagnie, il faut vraiment s'adresser à neutraliser le stéréotype de la technologie comme domaine masculin. Alors, là, dans ma thèse, j'avance sur le problème des jeux vidéo pour filles qui sont justement... maintenant un domaine horrible qui est vraiment utilisée pour renforcer les stéréotypes féminins. Donc, on leur donne des jeux vidéo, mais elles sont en train de s'occuper des chiots. Elles s'occupent des fringues, de leurs cheveux, de trouver un copain, de garder les enfants, c'est vraiment de redécorer leur chambre. C'est vraiment des jeux qui renforcent le stéréotype de nouveau, et c'est le genre de jeu qui quand même continue à envoyer un signal aux filles que ces jeux ne sont vraiment... qu'il y a le vrai domaine du jeu, et les jeux pour filles, on fait ça juste pour... juste pour te donner quelque chose à faire et faire un peu d'argent. Mais en réalité, si on regarde la plupart des jeux vidéo pour filles, c'est des jeux vidéo pour enfants. Les jeux pour garçons ne sont pas particulièrement masculins à cet âge-là. Il y a des super projets. Donc, essentiellement, ma thèse plonge là, à ce point-ci. Donc, voilà, je vais terminer à 45 minutes exactement.